Amélie Mélomane.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà.
Un orchestre est un monde. Un monde où chaque personne vient avec son propre instrument, son propre talent, pour jouer ensemble le temps d'un concert avec, pour seul idéal, de trouver l'unisson, d'en exprimer la mesure, d'atteindre l'harmonie. Seulement le temps d'un concert.
Bonjour les mélomanes et les curieux de musique classique. Alors, aujourd'hui, Mélie Mélomane vous propose de reprendre les valises et de repartir une nouvelle fois vers l'Amérique latine. Nous allons mettre le cap cette fois sur l'Argentine, après le Mexique avec Silvestre Vueltas, après le Brésil avec Heitor Villa-Lobos. Nous allons aller en Argentine. Alors quand on parle Argentine, on pense quoi ? Ben, on pense bien sûr tango, milonga, on pense Carlos Gardel. Ou peut-être Cuarteto Cedrón. Ou même, Astor Piazzolla. Mais de tous ces musiciens-là, nous ne parlerons pas, ou non, nous ne parlerons pas, voilà. Nous allons parler d'un compositeur qu'on pourrait qualifier de classique, même s'il est plutôt contemporain, même s'il est décédé en 83, un compositeur argentin qui s'appelle Alberto Ginastera. Le nom ne vous dit rien, et pourtant, je suis sûr que parmi les auditeurs, il y a des amateurs de pop music, oui, de pop music, j'ai bien dit, et qui peut-être ont entendu ce morceau-là. Alors, ce que nous entendons, c'est Emerson, Lake and Palmer, oui, un célèbre trio anglais du monde de la pop. Alors, c'est un morceau qu'ils avaient enregistré en 1973, si je ne me trompe, qui s'appelle Toccata, et qui, en fait, est inspiré d'un mouvement d'un concerto pour piano de Alberto Ginastera. C'est inspiré du quatrième mouvement de son premier concerto pour piano. Mais revenons au début et intéressons-nous à Alberto Ginastera. Alors, c'est un compositeur, il n'était pas encore compositeur quand il est né, mais il est né en avril 1916 à Buenos Aires. Donc, au cœur de l'Argentine, enfin c'est sur la côte, mais c'est au lieu de l'Argentine. Alors il a eu des dons très précoces et il a commencé le piano à partir de 7 ans. À 12 ans, le voilà au conservatoire. Il en sort assez rapidement, il n'a que 19 ans, avec une médaille d'or en composition, bah oui, ça fait déjà un petit moment qu'il compose. Depuis le début des années 30, il a commencé à composer. Alors, il a détruit la plupart de ses partitions, mais bon, il est déjà un compositeur, on va dire, presque aguerri. Et puis, il va aller au conservatoire national, pas le conservatoire municipal, mais un conservatoire national. Et puis, bah, il va composer un premier ballet qui va être sa... Il va en composer plusieurs, et là, ça va être la première composition qui va le faire reconnaître. Hein. Un ballet qui s'appelle Panambi, sur une légende guarani, des Indiens guarani. Ce sera joué sous forme de suite, hein, c'est-à-dire des extraits purement musicaux, sans chorégraphie, dans un haut lieu de la musique à Buenos Aires, le Teatro Colón. Hein, Théâtre Colón, beaucoup d'œuvres de Ginastera seront créées là-bas. Ça va installer sa réputation, donc ça on est en 1937 quand la suite est jouée. 1940, eh bien ça y est, là le ballet va être produit sur scène, et alors là ça va être une réussite manifeste, puisqu'il va obtenir pour cette musique-là un prix national, en même temps que le prix de la ville de Buenos Aires pour la musique. Donc, vous voyez que les choses sont bien avancées. Et nous, en 1940, le jeune Ginastera n'a que 24 ans, et une troupe de ballet américaine va lui commander une musique pour un ballet qui sera Estancia. Alors, petit problème, Estancia, c'est... Oui, ça se réfère à la pampa argentine, ça nous renvoie au monde des gauchos. Eh bien, le problème, c'est que la troupe va être dissoute avant la création. Ginastera a fait le travail, mais ce ne sera pas donné. Ce ne sera monté sur scène que 12 ans plus tard, en 1952. Voilà, il a quand même réussi à obtenir une bourse de la fondation Guggenheim, une fondation américaine qui encourage les artistes du monde entier, leur propose de venir étudier aux États-Unis. Mais là, on était donc à la veille de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et ben avec la guerre, il n'ira pas. Alors, je vous disais, une musique de ballet, Estancia, avec une suite de ballet, eh bien, on va tout de suite en écouter un extrait. Thank you. Vous êtes sur Divergence FM avec Mélie Méloman et nous écoutions Alberto Ginastera, un extrait de son ballet Estancia, le final, une danse malombo. Malambo qui renvoie à une danse des gauchos argentins, vous savez, les cow-boys de la Pampa. Et les interprètes, bah oui, les interprètes, c'était l'orchestre symphonique Simon Bolivar du Venezuela et le chef d'orchestre, c'était Eduardo Mata. Revenons à la suite de la carrière de notre compositeur argentin, donc Alberto Ginastera. Alors, on était resté à la période de la guerre. 1945, la guerre se termine. Le pouvoir, c'est Juan Perón en Argentine, qui est au gouvernement, qui tient les rênes du pays. Y a des problèmes, quelques petits problèmes. Ginastera est démissionné du conservatoire où il enseignait depuis 1941. Voilà, pourquoi exactement? Enfin, toujours est-il, il y a une politique qui fait que. Hein. Alors, pour situer, hein, Juan Perón, un gouvernement un petit peu autoritaire, on lui a reproché ça, et puis ce sera pire plus tard, mais quand même très social, hein, beaucoup de progrès du côté de la santé, du côté de l'éducation, du côté de la redistribution des richesses, c'est quelqu'un qui fait des choses de ce côté-là. Alors, premier séjour aux USA, du coup, ça y est, 45, et puisque je vous disais tout à l'heure, il avait reçu une bourse américaine, et puis il n'en avait pas profité pour cause de guerre, ça y est, là il y va. Il va notamment rencontrer, aux États-Unis, il va rencontrer un compositeur américain qui a eu beaucoup d'influence sur pas mal de compositeurs sud-américains, latino-américains, qui est Aaron Copland. Il faudra qu'on consacre une émission à Copland un de ces jours. Et sa formation va bien se passer. Il va passer 2 ans aux États-Unis, en fait, à peu près 2-3 ans. Et puis, 1948, il revient. Il est de nouveau sur des fonctions officielles. Il va notamment créer le conservatoire régional de la région de Buenos Aires. Il va aussi commencer à beaucoup voyager, puisque la reconnaissance vient. Il va en Europe, à Francfort, à Stockholm, à Rome. Et puis, les politiques, vous savez, la politique, c'est compliqué. Hein, ça va, ça vient. Le voilà de nouveau démis de ses fonctions officielles en 1952. Et il va les retrouver une fois que Perón, le gouvernement Perón, ne sera plus là. Parce qu'il y a un coup d'état militaire en 1955 et le gouvernement Perón est évacué. À travers toutes ces péripéties, si je puis dire, notre compositeur a une renommée de plus en plus internationale. Hein. Il voyage et c'est pas pour rien, il est reconnu. 1962... Il se risque à l'opéra, il se lance dans l'opéra avec un grand opéra qui s'appelle Don Rodrigo et qui va avoir beaucoup de succès. Il est aussi enseignant, un enseignant important qui va influencer toute une jeune génération de compositeurs latino-américains. Tiens, parmi ses élèves, vous savez qui a parmi ses élèves ? Un compositeur qui s'est inspiré beaucoup des musiques populaires en Argentine. Et qui jouait du bandoneo, un virtuose du bandoneo, un certain Astor Piazzolla. Et oui, alors sa carrière continue, il va y avoir un opéra, alors un épisode un peu curieux, un opéra qui s'appelle Bomarzo. Certains vont parler, au regard du livret, hein, de bel canto porno. Oui, de bel canto porno. En 67, son opéra sera censuré, interdit, il ne sera pas joué sur scène. Il finira enfin par être représenté au Teatro Colón en 1972 et ce sera un triomphe. C'est aussi l'époque où Alberto Ginastera quitte le pays et va aller vivre aux USA, puis en Europe. Il s'installera à Genève, où il passera le reste de sa vie. Il faut dire que vivre en Argentine, à cette époque-là, ça devient un petit peu compliqué, hein, puisque Perón est revenu au pouvoir. Ça se traduit par beaucoup de violence dans le pays. C'est en 73, cela. Et puis, encore quelques années avec de la violence. Et puis, ça va être la junte militaire, ça va être Videla. Et on est parti pour une dictature qui va durer un certain temps. Bon, cela... Donc Ginastera, lui, sera réfugié du côté de Genève, à Genève, où il décédera en 83, donc il n'est pas très concerné. Alors, un petit peu de musique quand même. Alors, la première œuvre que vous avez entendue, Ginastera a lui-même théorisé ses périodes de composition. Alors ça appartenait, cette première œuvre, le ballet Estancia, à ce qu'il appelait son nationalisme objectif, jusqu'à 1948 à peu près. C'est-à-dire qu'il s'inspire d'une musique populaire de façon très explicite. Hein, et c'est identifiable, c'est vraiment une musique, on peut dire, argentine, au sens presque folklorique du terme. Et puis, à partir de là, de 48 à 58, il va avoir une autre période, ce qu'il va appeler son nationalisme subjectif. D'autres musicologues parleront d'impressionnisme, de néo-impressionnisme, où la référence à la tradition argentine n'est pas forcément perceptible pour l'auditeur, mais elle est bien réelle pour le compositeur. Bah tenez, une œuvre qui représente cette époque-là, c'est la Pampanea Tres, hein, une pastorale symphonique qui date de 1954, dont je vous propose tout de suite un extrait. le dernier mouvement de la Pampanea numéro 3 d'Alberto Ginastera, un mouvement dit largo con poetica. Voilà, et c'était l'orchestre Simon Bolivar du Venezuela, toujours avec Eduardo Mata à la direction. Alors, on parlait des périodes de composition telles que Alberto Ginastera les a définies lui-même. Donc, on était dans cette espèce de néo-impressionnisme, un peu ce qu'il appelait son nationalisme subjectif. Et puis, à partir de 1958, il va ouvrir une autre période, ce qu'il va appeler son néo-expressionnisme. Et là, il va s'intéresser, il va se rapprocher de tout ce qui se fait à l'époque dans la musique contemporaine, notamment, ce qu'on appelait la musique sérielle. La musique sérielle, c'est-à-dire c'est cette musique qui utilise les 12 notes, il n'y a plus de tonalité, toutes les notes sont utilisées, tous les bémols, les dièses, tout ça, c'est utilisé, et de façon sérielle, c'est-à-dire que normalement, quand c'est fait rigoureusement, j'épuise toutes les notes, les 12 notes, avant d'attaquer une autre série dans un ordre différent des mêmes 12 notes. Et puis il va utiliser ce qu'on appelle la polytonalité, ainsi que les quarts de ton. Vous savez, normalement, il y a des demi-tons dans la musique, mais là, il utilise aussi les quarts de ton. Mais ces évolutions musicales ne sont pas que techniques, c'est aussi la recherche de nouveaux climats, un peu fantastiques, mystérieux, voire fantastiques. C'est avec cet extrait du concerto pour cordes d'Alberto Ginastera, son opus 33, plus précisément le deuxième mouvement de ce concerto pour cordes qui comprend quatre mouvements, un mouvement qui s'appelle Scherzo Fantastico. Et c'était les I Musici de Montréal, dirigés par Yuli Turovski. Voilà, c'est avec cette musique que nous terminons notre émission, mais vous allez pouvoir poursuivre cette découverte de la musique d'Alberto Ginastera avec un concert que nous propose l'Opéra Berlioz, n'est-ce pas ? Et oui, l'Orchestre de Montpellier va nous proposer un concert qui s'appelle Figure Latine, dans lequel vous pourrez entendre Astor Piazzolla, bien sûr, avec un concerto pour bandoneon. Vous pourrez entendre aussi Manuel de Falla avec l'apprenti sorcier, l'amour sorcier, excusez-moi, hein, suite pour orchestre. Et puis Alberto Ginastera avec la suite de Estancia, qui est le premier morceau que je vous ai fait découvrir, peut-être, dans cette émission. Alors, cela, eh bien, figure latine, c'est le 11 avril, le 12 avril et le 14 avril. Le 11 avril, c'est un jeudi express, donc ce sera un concert un petit peu plus court, c'est à 19h. Et puis le 12 avril, le vendredi 12 avril, à 20h. Et le dimanche 14 avril à 17h, où là, il y aura le programme complet avec deux œuvres d'Astor Piazzolla au lieu d'une seule. Le chef d'orchestre est un chef invité, Ernest Martinez Izquierdo. Et puis, il y aura aussi une violoniste dont je n'ai plus le nom sous les yeux, excusez-moi. Mais vous allez sur le site de l'Opéra de Montpellier et vous saurez tout. Et en vous souhaitant une bonne semaine musicale, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Midi Mélomane. Midi Mélomane.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.